Bonjour à tous, quelle joie de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Genèse, le livre de Genèse, chapitre 22. Nous allons lire ensemble les 14 premiers versets de Genèse, chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. » « Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Peut-être juste resituer le contexte de ce passage. Dans Genèse, chapitre 15, Dieu promet à Abraham une descendance, une postérité innombrable. Dieu, au chapitre 15 du livre de Genèse, va dire à Abraham, « Regarde le ciel, si tu arrives à compter le nombre des étoiles, c'est ainsi que sera ta postérité. » Chapitre 17 du livre de Genèse, la promesse se précise, puisque Abraham va recevoir cette parole de Dieu, où Dieu va lui dire, « Abraham, ta femme, Sarai, qui est stérile, elle enfantera un fils. » Abraham ne voulait pas y croire. Et la promesse se précise à nouveau dans Genèse, chapitre 21, où là, Dieu rend fertile Sarah. Et elle va enfanter ce fils tant attendu, Isaac. Ce fils tant attendu par lequel la promesse de Dieu doit s'accomplir. Et enfin, on arrive au chapitre 22, les 14 premiers versets que nous venons de lire, où là qu'on voit qu'Abraham, mais aussi Sarah, elle n'est pas mentionnée, mais on peut imaginer l'épreuve par laquelle ces deux parents sont en train de passer. Une épreuve qui vient apparemment compromettre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et vous savez, pour Abraham, mais aussi pour Sarah, même si elle n'est pas mentionnée dans les 14 premiers versets de Genèse chapitre 22 que nous avons lu, pour ces deux parents, c'est une expérience, c'est une épreuve à la fois douloureuse sur le plan humain, mais aussi troublante sur le plan spirituel. Douloureuse sur le plan humain parce que vous avez là un père qui va sacrifier son fils. Imaginez-vous, moi qui suis père, je peux ressentir tout ce qui a pu passer dans la tête d'Abraham et même dans celle de Sarah, de devoir sacrifier leur fils, celui par lequel la promesse de Dieu devait s'accomplir. Et c'est aussi une épreuve qui est troublante sur le plan spirituel. Mettez-vous deux secondes à la place d'Abraham et de Sarah. Comment Dieu peut-il s'être trompé dans sa promesse ? Comment Dieu peut-il revenir sur les projets qu'il a annoncés ? Ce matin, nous avons une parole de connaissance qui va exactement dans le sens de la prédication. Oui, ce matin, nous n'avons peut-être pas à subir l'épreuve qui était celle d'Abraham, mais nous avons sans doute à affronter d'autres types d'obstacles, d'autres types d'épreuves qui viennent mettre le trouble dans notre esprit sur l'accomplissement de promesses que nous avons reçues de la part de Dieu. Tu as certainement ce matin reçu une promesse que tu allais fonder une famille, mais le fiancé, la fiancée n'arrive pas. Tu as sans doute ce matin reçu une promesse que tu aurais un travail, mais entretien après entretien, c'est l'échec. Ce n'est pas fructueux. Candidature n'est pas reçue. Tu as sans doute reçu la conviction que tu serais guéri de cette maladie, mais examen après examen, rien ne se passe. Alors ce matin, j'ai un encouragement à partager avec toi. Ce matin, j'aimerais t'encourager et te dire que entre la promesse que tu as reçue, entre la conviction que tu as reçue et l'accomplissement de cette promesse, ce qui est déterminant, c'est l'attitude que tu vas avoir durant cette période. Ce qui est déterminant, c'est l'attitude et les choix que tu vas faire face aux épreuves. Et cette attitude, elle se résume en celle qu'a prise Abraham, c'est de pouvoir compter sur Dieu. Et c'est vraiment le titre de mon message ce matin, c'est de compter sur Dieu au milieu des épreuves. Qui souhaite compter sur Dieu au milieu des épreuves ce matin? Amen. Face à l'épreuve qui était celle d'Abraham, Abraham a compté sur Dieu en tout point, et nous allons le voir. Et c'est ce qui lui a permis, au final, d'expérimenter la provision miraculeuse de Dieu dans sa vie, au travers de cet ordre, de ce commandement qu'il avait reçu de la part de Dieu. Et l'attitude d'Abraham peut se décliner en quatre points, en quatre clés. Mettez derrière ces quatre clés ce matin vos épreuves. Je ne connais pas et je n'ai pas à connaître non plus les épreuves par lesquelles vous passez. Peut-être qu'il y en a celles que vous voulez bien, dont vous voulez bien en parler et celles qui sont cachées au plus profond de vous-même. Alors mettez à chaque point que nous allons voir ce matin, vous connaissez l'épreuve par laquelle vous passez. Et comme Abraham, je peux dire premièrement, peu importe les épreuves, je reste dans l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est notre premier point. Deuxièmement, dans les épreuves, je cherche encore plus la présence de Dieu. Quelle est l'épreuve que tu vis ce matin? Cherche encore plus la présence de Dieu. Troisième clé de l'attitude d'Abraham, dans les 14 versets que nous avons lus, malgré les épreuves, je continue à adorer. Quelle est l'épreuve que tu vis ce matin? Quel est l'obstacle? Quelle est la difficulté? Reste dans l'adoration. Et enfin, dernière clé de l'attitude d'Abraham, c'est qu'au milieu des épreuves, il a persévéré dans la foi. Alors au milieu des épreuves, je persévère dans la foi. Alors ce matin, nous allons voir ces quatre clés. À chaque fois, mettez derrière chacune de ces clés l'épreuve, la difficulté par laquelle vous traversez. Premièrement, peu importe les épreuves, je reste dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Cela paraît assez trivial. Mais regardez ce que dit Genèse, les trois premiers versets du chapitre 22. Genèse chapitre 22, plus exactement les versets 2 et 3. Il nous est dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Tout a commencé par une parole. Dieu dit. Pour obéir à la volonté de Dieu, il faut déjà que je sache, que je comprenne, que j'appréhende comment Dieu me parle. Dieu dit, et Abraham s'est exécuté. Mais il a fallu qu'Abraham écoute la volonté et la parole de Dieu. Alors comment comprendre ce que Dieu a à me dire? Comment je peux saisir la volonté de Dieu? J'aimerais tout d'abord vous dire que le premier canal par lequel Dieu nous révèle sa volonté, c'est la Bible. C'est la Bible. Et c'est pour cela que David, conscient de cette vérité, dans le chapitre 110 des psaumes, Il va dire deux déclarations qui sont assez importantes. Au verset 11 du chapitre 110 des psaumes, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et il continue toujours dans ce même chapitre, au verset 105, où il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Mes frères et sœurs, dans vos difficultés, dans vos épreuves, l'épreuve que tu vis ce matin, la parole de Dieu est là pour confirmer et te rappeler les promesses de Dieu à ton endroit. La parole de Dieu est là pour éclairer ton sentier, afin que tu ne prennes pas de mauvaises décisions alors que tu es dans le trouble. La parole de Dieu est là pour t'encourager et pour t'instruire, pour nous instruire selon nos besoins. Et vous savez, il ne suffit pas de dire la parole de Dieu, la parole de Dieu, la Bible. J'aimerais partager avec vous les quatre roues motrices de la parole de Dieu. Vous connaissez les quatre roues motrices de la parole de Dieu ? Les quatre roues motrices de la parole de Dieu. Lorsque vous avez cette parole entre les mains, la première chose, c'est écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est ce que vous faites en ce moment. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous limitez pas à écouter un message juste 20, 30 minutes le dimanche matin. Il y a aujourd'hui, et j'aimerais que ce message soit pratique, qu'au sortir de ce culte, que vous puissiez le saisir et l'appliquer dans vos difficultés. Écouter la parole de Dieu, c'est très bien de venir au culte et d'écouter la parole de Dieu, d'écouter le prédicateur. Mais il y a aujourd'hui un certain nombre d'outils. Tout le monde a un smartphone. Et vous pouvez écouter des centaines de prédications qui sont mises à disposition à la fois sur notre site internet, mais également sur l'application de l'Église. Écoutez la parole de Dieu, la première roue motrice. Écoutez la parole de Dieu. Ne vous limitez pas uniquement aux 30 minutes de prédication le dimanche matin, mais chaque jour, écoutez la parole de Dieu. Deuxièmement, deuxième roue motrice, écoutez la parole de Dieu, mais c'est bien, il faut la lire également. Et lire la parole de Dieu, là également, j'aimerais être très pratique. Il y a aujourd'hui des plans de lecture de la Bible qui existent. Il y a une application qui est très bien, qui s'appelle YouVersion, pour laquelle vous pouvez prendre des plans de lecture et lire la parole de Dieu. Il faut écouter, mais il faut la lire. Troisième roue motrice, une fois que vous avez écouté la parole de Dieu, une fois que vous l'avez lue, il faut la méditer. Méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est j'ai écouté, j'ai lu, maintenant, qu'est-ce que ce texte que j'ai lu, qu'est-ce qu'il a à me dire personnellement ? Méditer la parole de Dieu. Et enfin, la quatrième roue motrice, sinon le véhicule ne roulerait pas, la quatrième roue motrice, c'est mettre en pratique. Mettez en pratique la parole de Dieu. C'est là que l'apôtre Jacques va dire dans Jacques, chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. » Donc les quatre roues motrices. Écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Donc Dieu nous parle prioritairement, premièrement, au travers de la Bible. Mais Dieu nous parle également par d'autres canaux. Nous l'avons vu ce matin avec la parole de connaissance que nous avons reçue. Dieu peut nous parler par des songes, par des visions. Et regardez ce que dit la parole de Dieu dans Job, chapitre 33, qui s'affiche. Job, chapitre 33, versets 14 à 18. « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Qu'est-ce qui se passe ? Alors il leur donne des avertissements et met le sceau de ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. » Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce sera un peu long à expliquer. J'ai quelques témoignages quand même personnels que j'avais partagés avec quelques-uns d'entre vous lors des études bibliques, où Dieu m'a parlé par des songes sur des choses qui allaient se réaliser dans ma vie et les choses se sont réalisées exactement comme Dieu me l'avait montré dans les songes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais j'aimerais conclure ce point en disant la chose suivante. Qu'il s'agisse de comprendre un texte biblique, qu'il s'agisse d'ouvrir la parole de Dieu, de comprendre ce que la Bible a à me dire, qu'il s'agisse d'avoir la conviction d'une parole de connaissance, qu'il s'agisse de comprendre ce qu'un rêve inspiré par Dieu veut me dire, le meilleur interprète reste le Saint-Esprit. Le meilleur interprète reste le Saint-Esprit. Et nous devons vraiment chercher le Saint-Esprit lorsque Dieu nous parle, pour que le Saint-Esprit nous révèle ce que cette parole a à nous dire. Jésus était conscient de cela. Lorsque Jésus annonça à ses disciples dans Jean chapitre 16 qu'il allait quitter ce monde, Jésus va dire la chose suivante, Jean chapitre 16, versets 12 et 13, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Sous-entendu, je ne vous ai pas tout dit. « Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité et l'Esprit Saint, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il fera quoi ? Il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit reste le meilleur interprète. Que ce soit une prédication que vous avez reçue, que ce soit une parole que vous avez lue dans la Bible, dans votre temps de dévotion personnelle, que ce soit une parole de connaissance que vous avez reçue, que ce soit un songe, une vision, le meilleur interprète reste le Saint-Esprit. Mais il ne suffit pas, mes frères et sœurs, de comprendre la parole. Une fois que j'ai entendu, j'ai compris comment Dieu me parle, je dois obéir, n'est-ce pas ? Je dois obéir et obéir en tout point, comme l'a fait Abraham. Parce que Abraham ne discute pas l'ordre de Dieu. Versets 2 et 3 du chapitre 22, Dieu dit et Abraham s'exécute. Le lendemain, la Bible nous dit, le lendemain, Abraham sella son âne. Il ne discute pas l'ordre de Dieu. Il exécute en tout point ce que Dieu lui demande de faire. Et bien souvent, mes frères et sœurs, nous passons à côté de certaines bénédictions parce que malgré qu'on ait compris que c'était Dieu qui nous parlait, malgré qu'on ait reçu la conviction d'une parole de Dieu, nous avons des scénarios préconçus. Nous avons des schémas préconçus. Et nous nous disons, mais c'est pas comme ça que ça doit se faire. C'est pas comme ça que Dieu doit exécuter ce plan-là dans ma vie. Et nous passons à côté de certaines bénédictions. Ça a failli être le cas de certains hommes qui s'appellent Naaman. Naaman, grand dignitaire de l'armée. Naaman, aussi dignitaire qu'il fut, il était frappé de la lèpre. Et Naaman, dans 2 Rois chapitre 5, Naaman apprend qu'il y a un prophète qui s'appelle Élisée, qui prie pour les malades, qui les guérit, un prophète qui est inspiré par Dieu. Naaman va être averti de la présence de ce prophète Élisée. Alors ce qu'il fait, il va vers le prophète. Et vous savez, Naaman, pour bien comprendre les versets que nous allons lire, Naaman, à un moment donné, va être frustré. Parce que à ce moment-là, le prophète Élisée se trouve en Samarie. Naaman, il est le général de l'armée de Syrie. Entre la Syrie et la Samarie, il y a 600 kilomètres. Cet homme va parcourir 600 kilomètres pour aller voir le prophète Élisée. Et regardez ce que dit la Bible dans 2 Rois chapitre 5, versets 10 à 14. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et tu seras pur. » Il fait 600 kilomètres, grand général de l'armée. Élisée ne veut pas le rencontrer. Élisée envoie dire, « Va dans le Jourdain, lave-toi cette fois et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et on peut le comprendre humainement. Et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, » alors là, voici le scénario qu'il avait imaginé, voici le schéma préconçu qu'il avait sur sa guérison et que nous pouvons avoir encore ce matin sur les difficultés, les épreuves que nous avons. Naaman dit, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Eh bien non, ce n'était pas le plan de Dieu. Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Parce qu'il y avait des fleuves en Syrie. Pourquoi j'ai fait 600 kilomètres pour aller dans un fleuve qui est là en Samarie ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Et là, Naaman retrouve la raison, si on peut dire. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous encourager. Dans nos épreuves, lorsque Dieu nous parle, je n'ai pas à tout comprendre à l'instant T. Je dois tout simplement accepter et obéir simplement à ce que Dieu me demande de faire. Je lui obéis car je sais qu'il a en réserve des provisions pour ma vie. Je lui obéis parce que je sais que c'est lui qui tient les provisions divines pour ma vie. Et vous savez, le terme provision vient du latin provisio. Et provisio en latin, il y a deux idées. Il y a premièrement prévoir et pourvoir. Donc lorsque Dieu prévoit, il pourvoit. Dieu est celui qui prévoit Et je crois que celui qui a la capacité de tout prévoir, Dieu, a aussi la capacité de pourvoir à tout. Il a des provisions pour ma vie. Lorsque dans l'épreuve, je continue à marcher avec persévérance dans l'obéissance à Dieu et à sa parole, les promesses divines vont s'accomplir assurément dans ma vie. Peu importe les épreuves, je reste dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Deuxième point, dans les épreuves, je marche encore plus. Je recherche encore plus la présence de Dieu. Regardez ce que dit Genèse, chapitre 22, donc le texte principal que nous avons lu. Au verset 3, la Bible déclare « Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et j'ai souligné, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. » Il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Quel est ce lieu ? Ce lieu, c'est le mont Morija. Le mont Morija, ce n'est pas un lieu choisi au hasard par Dieu. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Mais si Dieu lui demande d'aller au mont Morija, c'est parce qu'au mont Morija, il y a quelque chose de spécial. Le mont Morija, vous trouverez ça dans 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Le mont Morija, c'est le lieu sur lequel Salomon va construire le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, c'est le symbole de la présence de Dieu. Dieu est en train de dire à Abraham, je sais que tu as à traverser une épreuve. Je sais que tu as à faire face à un obstacle. Mais ce que je te demande, c'est de venir en ma présence. C'est de venir en ma présence. Alors il y a une vérité spirituelle là-dedans. Il y a une vérité spirituelle pour ma vie ce matin. C'est que quels que soient mes problèmes, lorsque je suis affligé, lorsque je suis éprouvé, lorsque je suis dans le doute, dans différents domaines de ma vie, je dois chercher encore plus la présence de Dieu. Je dois me rendre sur le mont Morija. Je dois me rendre au temple de l'Éternel. Je dois me rendre dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est importante, mes frères et sœurs, pour nous qui sommes chrétiens. Parce que sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien faire. La présence de Dieu nous donne la direction, premièrement. C'est là que David déclare dans le psaume 84, verset 5, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » La présence de Dieu me donne la direction. C'est très important, mes frères et sœurs, lorsque nous traversons une épreuve, de comprendre, de saisir et d'être assuré, d'être sûr que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons. Suis-je à la place que Dieu veut que je sois ? Que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit au niveau de la famille, dans tous les domaines de ma vie, est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois ? C'était l'erreur qu'a faite très rapidement Lot, Genèse chapitre 13, suite à une querelle entre lui et Abraham, Lot va se séparer. Et dans Genèse chapitre 13, la Bible dit que Lot regarde de l'autre côté du Jourdain. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la plaine arrosée. C'était Sodome et Gomorre. Il croit avoir pris la bonne décision, mais il ne se rend pas compte qu'en quittant Abraham, il quitte également une partie de la bénédiction. Et vous connaissez la suite de la vie de Lot. Arrivé à Sodome et Gomorre, la corruption s'empare de toute sa famille à tel point que ses deux filles vont commettre l'inceste à son égard, à tel point que sa femme va être transformée en statue de sel. Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois ? Je dois rester dans la présence de Dieu parce que la présence de Dieu me donne la direction. La présence de Dieu me donne aussi la paix, le repos, la sécurité. Et dans nos épreuves, puissions-nous dire comme David, dans le psaume 91, versets 1 et 2, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alléluia. La présence de Dieu me donne la direction. La présence de Dieu me donne la paix, le repos, la sécurité. Quelle est ton épreuve ce matin ? Viens dans la présence de Dieu. Quelle est ta difficulté ce matin ? Viens sur le mont Morija. Viens à la rencontre de Dieu. La présence de Dieu est aussi un privilège. Mais comme dans toute relation, cette présence doit être entretenue. Ma femme me reproche souvent lorsque, après 2-3 jours, je rentre très tard du travail, je passe moins de temps avec elle, elle me rappelle à l'ordre. Parce qu'être dans la présence de quelqu'un, c'est vraiment, il faut l'entretenir. Et David, conscient également de cela, va dire dans le psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie, où ça ? Dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence et pour admirer son temple. » Alors, parce que je veux que ce message soit concret, être dans la présence de Dieu, c'est quoi ? Être dans la présence de Dieu, c'est lorsque je suis dans mes épreuves, je dois faire de la place dans mon agenda. Lorsque je suis dans des difficultés, je dois faire de la place dans mon agenda pour lire la parole de Dieu, pour la méditer. Je dois faire de la place dans mon agenda pour passer plus de temps dans la prière, dans le jeûne. Être dans la présence de Dieu, lorsque je traverse des difficultés, je dois faire plus de place dans mon agenda pour la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Je dois également faire plus de place dans mon agenda pour l'adoration, pour la louange. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait, ça nous amène à notre troisième point, c'est ce qu'a fait Abraham. Abraham, il a obéi, certes. Il est venu au pied, au mont Morija, là où Dieu l'attendait. Mais la première chose qu'il fait en arrivant, c'est qu'il adore. La première chose que fait Abraham, il adore. Ça nous amène à notre troisième point. Malgré les épreuves, je continue à adorer Dieu. Peu importe les épreuves, je reste dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Dans les épreuves, je cherche encore plus la présence de Dieu. Et malgré mon épreuve, je continue à adorer Dieu. On revient à notre texte principal, Genèse chapitre 22, verset 5 précisément. La Bible dit « Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Je ne vais pas trop m'étendre sur ce troisième point, parce que le 15 juillet précisément de cette année, j'ai eu à partager avec vous un message très complet sur l'adoration. Mais vous pouvez l'écouter sur le site internet de l'Église ou encore sur l'application de notre Église. Mais juste rappeler quelques points ici. Imaginez-vous un père, nous l'avons déjà dit, un père qui va sacrifier son fils. Il parcourt 80 km, qui est la distance entre Beersheba, là où Dieu lui dit « va », et là où il arrive, le mont Morija. Il y a 80 km qu'il fait à Padan. Ça a duré 3 jours, nous dit la parole de Dieu. Et lorsqu'il arrive, pendant les 3 jours, il a dû ruminer, que je vais tuer mon fils, mon unique. Et lorsqu'il arrive au lieu où Dieu l'attendait, la première chose qu'il fait, il adore. Alors je ne sais pas quelle est ta difficulté ce matin, quel est ton problème. Première chose que tu dois faire, adore, rentre dans l'adoration. Parce que l'adoration, c'est le prélude. L'adoration, c'est l'antichambre de la prière. Et avant d'affronter tes défis cette semaine, avant d'affronter les difficultés cette semaine, rentre dans l'adoration. Paul et Silas, acte 16. Paul et Silas étaient enfermés dans une prison. Et ça n'avait rien à voir avec des prisons suisses que nous connaissons aujourd'hui. C'était des prisons horribles, des conditions horribles. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans acte 16, verset 25 ? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas faisaient quoi ? Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Avez-vous des difficultés ce matin ? Rentre dans l'adoration. Rentre dans la louange. Lorsque tu adores Dieu, malgré les difficultés que tu traverses, c'est la vision que tu as de lui qui devient grand et non plus les problèmes. C'est la vision que tu as de Dieu qui devient grand, non plus les problèmes lorsque tu es dans l'adoration. Et j'aime bien cette citation qui s'affiche de David Wilkerson, qui est un des pasteurs fondateurs de l'église Times Square Church à New York. Il dit la chose suivante, « Les vrais adorateurs se construisent pendant les sombres nuits, parce que c'est notre façon de réagir durant nos sombres nuits qui détermine quelle sorte d'adorateurs nous sommes. » Et encore une fois, parce que je veux que ce message soit concret, l'adoration c'est quoi ? Quand tu adores Dieu où tu veux, quand tu veux, comment tu veux. N'attendez pas encore une fois d'être à l'église le dimanche matin, ce temps d'adoration, de louange. Merci Seigneur pour les talents musicaux, pour les talents vocaux. Mais vous pouvez toutes et vous devriez, je devrais, toute la semaine, adorer. Et concrètement, vous savez, tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Dans les smartphones, vous pouvez vous faire une playlist de chansons que vous pouvez écouter, adorer dans le bus. Moi, il m'arrive souvent d'adorer dans le bus. Il m'arrive souvent, avant une réunion difficile au travail, de mettre un chant de louange, d'adoration et d'entrer dans l'adoration. Parce que l'adoration, c'est l'antichambre de la prière. Parce que dans l'adoration, il y a des victoires. Il y a des victoires qui s'opèrent dans l'adoration. Et je vous encourage, mes frères et sœurs, à adorer. Quelles que soient vos difficultés ce matin, quelles que soient vos épreuves, adorer. Comme l'a fait Abraham. Comme l'a fait Abraham. Adorer. Peu importe les épreuves, je reste dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Dans les épreuves, je cherche encore plus la présence de Dieu. Et nous venons de le voir, malgré les épreuves, je continue à adorer Dieu. Enfin, le dernier point, au milieu des épreuves, je persévère dans la foi en Dieu. On revient à notre texte principal, Genèse chapitre 22, versets 8 et 10. Pour illustrer ce quatrième point, cette quatrième clé de l'attitude d'Abraham, Genèse 22, versets 8 à 10. Lorsque Isaac, il dit, mais comme diraient les jeunes aujourd'hui, je suis en train de me faire carotte. J'arrive et il n'y a rien. On dit qu'on va sacrifier, mais il n'y a pas d'agneau, papa. Il est où l'agneau? Il est où? Et là, Isaac comprend qu'il se passe quelque chose. Mais regardez la réponse d'Abraham. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Dans cette réponse, dans la réponse d'Abraham, il y a vraiment deux points importants qui illustrent bien ce qu'est la foi. Il y a deux points importants. La première partie de la réponse d'Abraham, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Il y a là une assurance que Dieu va intervenir. Et c'est vraiment la définition de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a une assurance. C'est la première jambe de la foi. C'est l'assurance. Abraham manifeste de l'assurance. Il dit, mon fils, ne t'inquiète pas, Dieu va pourvoir. Il n'en savait rien à ce moment-là. Dieu va pourvoir. Et enfin, la deuxième jambe de la foi, deuxième partie de la réponse d'Abraham, puis Abraham étendit la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Il y a là un acte. Parce que vous savez, la foi, ça fonctionne avec première jambe, assurance, et deuxième jambe, les actes, l'action. Et c'est la foi à laquelle Dieu prend plaisir. C'est la foi agissante, c'est la foi en action. Il ne suffit pas juste de croire, mais il faut aussi agir. Il faut aussi avoir les actes. Et c'est pour cela que l'apôtre Jacques va dire dans Jacques chapitre 2, verset 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, si elle n'a pas les actes, si elle n'a pas les actions, elle est quoi? Elle est morte. » Si la foi, si ta foi, il n'y a pas d'action, n'est pas accompagnée d'action, ta foi est morte. Et vous savez, moi, ce que j'ai pu expérimenter, je partagerai avec vous dans quelques minutes un témoignage personnel sur vraiment la foi agissante, c'est que Dieu honore toujours la foi agissante de ses enfants. Dieu honore toujours la foi de celui qui, d'une part, a l'assurance et d'autre part, a les actes. C'était le cas d'Abraham. Et lorsqu'on continue dans Genèse chapitre 22, verset 11, quelle est la suite de tout cela? Au verset 11, la Bible nous dit « Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu à la foi d'Abraham. Dieu a pourvu à la foi d'Abraham. Dieu honore toujours la foi agissante de ses enfants. Et j'aimerais t'encourager ce matin, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, mets le nom de l'épreuve sur l'épreuve que tu passes. Tu la connais. Dieu va honorer la foi agissante, la foi en action dont tu feras preuve. Comme cette femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans, elle se dit, mais si seulement je pouvais toucher le vêtement de Jésus. Et Jésus va lui dire, dans Matthieu chapitre 9, verset 22, « Va, ma fille, ta foi t'a guérie. » Parce qu'il y avait une foi agissante. Et lorsque les choses te paraissent impossibles, c'est à ce moment-là que tu dois redoubler de foi. Je suis né en Haïti, dans un village. Mes parents étaient très pauvres. Je suis né épileptique. J'avais des crises épileptiques très fréquemment. Il ne se passait pas une semaine sans que j'aie une crise d'épilepsie. Vous savez, lorsque vous êtes dans des villages très pauvres, puis quand vous n'avez pas les moyens d'aller voir le médecin pour diagnostiquer réellement ce que vous avez, on a cru pendant plusieurs années que c'était une attaque diabolique, que c'était des gens dans le village qui voulaient en fait me tuer sur un plan diabolique. Mes parents ont émigré en Guyane française. Arrivé en Guyane, j'ai été scolarisé. Et cette maladie a vraiment perturbé ma scolarité. Chaque semaine, j'avais une crise. Mes parents devaient quitter leur travail, venir me récupérer parce que je tombais dans les pommes. Voilà, c'est une crise d'épilepsie. Les médecins m'ont prescrit des médicaments à prendre à vie. C'était des comprimés à prendre tous les jours à vie parce que c'était une maladie. Selon les médecins, c'était une maladie incurable. À l'âge de 7 ans, parce que ma mère nous amenait tous les mercredis, à une réunion de jeunes, ce mercredi matin-là, alors que j'avais 7 ans, le prédicateur a prêché sur la foi, sur exactement ce que je viens de vous dire. La foi, c'est l'assurance, c'est les actes. Lorsque je suis rentré chez moi ce mercredi, j'ai jeté les médicaments. Je ne vous demande pas de faire ça. C'est la conviction que moi j'avais reçue à ce moment-là. Je ne vous demande pas de faire ça en quittant le culte ce matin, mais c'est à ce moment-là, c'est la conviction que j'avais reçue. Je suis rentré chez moi, j'ai jeté les médicaments. Vous pouvez vous imaginer la colère de mes parents. Mais qu'est-ce qui t'arrive, des médicaments qu'on a achetés très cher? Si tu ne les prends pas demain, tu vas encore avoir une autre crise. Jusqu'à l'heure où je vous parle, aucune autre crise. Dieu honore la foi agissante de ses enfants. J'aimerais vous encourager, quel que soit le domaine dans lequel tu es éprouvé en ce moment, que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit sur le plan économique, sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan administratif, parce que tu n'as pas de papier dans ce pays, que ce soit sur le plan des attaques spirituelles, persévère dans la foi. Une foi active et ta délivrance sera certaine. Peu importe les épreuves, je reste dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Dans les épreuves, je cherche encore plus la présence de Dieu. Malgré les épreuves, je continue à adorer. Au milieu des épreuves, je persévère dans la foi en Dieu, une foi active. Frères et sœurs, je suis bien conscient que chacun de ces points aurait pu faire une prédication à eux, particulièrement individuellement. Je voulais vraiment vous encourager ce matin. Les épreuves par lesquelles vous passez, restez dans l'obéissance à la voix de Dieu. Restez sensible à ce que Dieu veut vous dire. Recherchez la présence de Dieu. Continuez dans l'adoration, quelles que soient vos difficultés. Et au milieu de vos épreuves, persévérez dans la foi. Une foi active, la foi active, une foi en acte, celle à laquelle Dieu prend plaisir.